Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. De l'électricité zéro carbone en 2050, ce n'est pas une utopie. La France peut y arriver, assure RTE, mais à condition de garder du nucléaire. Comme un air de pré-campagne pour Emmanuel Macron, qui était aujourd'hui en déplacement dans la Loire, sur le thème de la réindustrialisation du pays. La justice va enquêter sur les causes du suicide de Dina. Cette lycéenne de 14 ans était victime de harcèlement scolaire. Jean-Michel Blanquer assure être mobilisé contre ce phénomène. Vous l'entendrez. Sa cavale aura duré des mois. L'un des gros bonnets de la drogue en France a été serré dans une clinique au Maroc. Il s'était présenté avec de faux papiers allemands. La pilule anti-Covid, c'est peut-être pour bientôt. L'Agence européenne du médicament examine sa viabilité. Elle viendrait en complément de la vaccination. Pourquoi Alec Baldwin tenait-il une arme mortelle entre les mains sur le tournage du western Rust? Cette question demeure, mais on en sait plus maintenant sur les circonstances qui ont coûté la vie à la chef opératrice du film. Le temps pour demain, ce sera une météo d'automne bien typique, nous dira Marlène Duret. L'invité éco à 22h20, on s'intéressera au groupe Safran qui tourne la page de la crise avec une hausse des salaires et des embauches. Et on découvrira les unes de la presse pour demain matin. Produire de l'électricité sans gaz à effet de serre en 2050, la France en est capable, prévoit RTE dans son rapport présenté ce lundi. Le gestionnaire du réseau électrique évoque même des coûts de production raisonnables, mais à une condition qui ne fera pas l'unanimité. Maud Descamps, il faudra garder une part de nucléaire.
Oui, d'un point de vue strictement économique, il est plus intéressant de s'appuyer sur un mix énergétique qui comprend à la fois des énergies renouvelables et du nouveau nucléaire. Mais attention, hein, RTE souligne qu'un scénario avec 100% d'énergie renouvelable est tout à fait possible. Son coût est juste plus élevé. Dans tous les cas, il est indispensable de développer les énergies renouvelables, souligne Thomas Vérinck de RTE.
Le fait que les énergies renouvelables sont indispensables est l'un des enseignements majeurs. Je vous rappelle qu'on a aujourd'hui 60% de notre consommation d'énergie qui vient des énergies fossiles et qu'en 2050, ça doit avoir complètement disparu. Et donc, on va devoir augmenter la consommation d'électricité. Et pour augmenter la consommation d'électricité, il y aura de toute façon des énergies renouvelables dans notre bouquet électrique.
Il va donc falloir électrifier massivement nos usages, que ce soit dans le secteur des transports, du chauffage ou encore de l'industrie, pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. RTE estime que les besoins en électricité vont augmenter de 35% d'ici 2050.
Maud Descamps, spécialiste des questions d'énergie à Europe 1. Alerte sur les gaz à effet de serre. Leur concentration dans l'atmosphère a atteint des records l'an dernier, selon l'Organisation météorologique mondiale. À quelques jours de l'ouverture de la COP26 à Glasgow, l'ONU alerte sur la déforestation en Amazonie qui perd de sa capacité naturelle à absorber le dioxyde de carbone. Au même moment, l'Arabie Saoudite promet un peu plus $1 milliard pour la lutte contre le réchauffement. Première exportatrice mondiale de pétrole brut, elle sera à la table de la COP26. L'Arabie Saoudite qui vise la neutralité carbone sur son territoire en 2060. Emmanuel Macron n'oublie pas le service après-vente de son plan France 2030. Le chef de l'État était dans la Loire ce lundi pour en décliner le volet robotique. 800 millions d'euros budgétés avec ce credo: pour raviver l'industrie en France, il faut la robotiser. Jacques Serret, vous avez suivi le président dans ce déplacement qui avait tout d'un tour de chauffe pour la campagne présidentielle.
Oui, et c'est debout, micro à la main, au milieu de l'entrepôt de cette entreprise que le chef de l'État s'est adressé à la centaine d'employés.
Vous êtes au cœur du futur de notre industrie. On pourra réindustrialiser la France grâce aux transformations auxquelles vous contribuez. On ne va pas réindustrialiser la France en redéveloppant l'industrie qu'on connaissait il y a 20 ans ou 30 ans. La nostalgie n'est pas de bonne conseillère. On va le faire en développant une industrie qu'on est en train d'inventer, de transformer, mais où il y a beaucoup plus de valeur ajoutée.
Emmanuel Macron, à la fois président et VRP de son propre plan France 2030, annonce un chèque de 800 millions d'euros consacré au secteur de la robotique. Quelques heures plus tard, changement de décor pour le locataire de l'Élysée, pas encore candidat, déambulation et bains de foule dans le centre-ville de Montbrison. Accueil En fanfare, vous l'entendez derrière moi, serrage de main par dizaines et remise des insignes de l'Ordre National du Mérite à la figure locale, le chocolatier François Pralune, avec au passage une petite phrase qui n'a rien d'anodin. Quand les vents mauvais reviennent, on voudrait nous faire croire que ce que nous sommes, ce serait du rétrécissement, dit Emmanuel Macron avant de poursuivre. Nous sommes des valeurs de travail, de mérite et de générosité. Alors du côté de l'Élysée, on nous assure que le président n'est pas en campagne. C'est tout de même de plus en plus difficile à croire.
Un reportage Jacques Serey qui suivait donc Emmanuel Macron ce lundi dans la Loire pour Europe 1. Éric Zemmour, lui non plus, n'est pas encore candidat à la présidentielle, mais il a déroulé des propositions ce week-end. Le polémiste a un programme pour le code de la route et les règles de circulation. Éric Zemmour veut supprimer le permis à points, remettre la limitation à 90 km/h sur les routes. Il estime même, Louis Dragnel, que les limitations de vitesse sur autoroute n'ont pas d'intérêt.
Absolument. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que Éric Zemmour compte parmi ses électeurs potentiels plutôt des Français aisés, ce qu'on appelle les CSP+. Et donc, sa priorité, c'est de parler, de toucher le plus largement possible l'électorat populaire, aujourd'hui plus tenté par la candidature de Marine Le Pen. Le journaliste pas encore candidat veut donc parler à cette France qui se lève tôt, travaille durement, conduit, sillonne les routes. La France qui souffre et qui considère que l'État est trop dur avec les petites gens et trop laxiste avec les vrais fraudeurs. Avec ses propositions sur la sécurité routière, Éric Zemmour s'inscrit dans les pas d'un certain Jean-Marie Le Pen qui lui aussi, il y a quelques années, défendait la levée de certaines restrictions sur les routes au nom de la liberté et de la sécurité. Pour terminer, Éric Zemmour le sait, la France compte 40 millions d'automobilistes et beaucoup d'entre eux ont l'impression que l'État utilise l'argument de la sécurité routière pour gagner de l'argent à travers les amendes. À rebours de tous les candidats sur le sujet, il essaye donc de leur parler en espérant obtenir leur voix.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Parmi ces propositions d'Éric Zemmour, il y en a au moins une qui trouve un écho dans le programme du Républicain Philippe Juvin. Le candidat à la candidature de la droite était ce soir l'invité de Laurence Ferrari dans Punchline et il se dit prêt, lui aussi, à mettre fin au permis à point.
Ce que je crois, c'est que le permis à point est devenu une pompe à fric. Encore une fois, la question, c'est l'équité. Est-ce que l'État est là pour taper avec une grosse matraque ou est-ce que l'État est là pour faciliter la vie des gens et d'une manière la plus intelligente possible. On a un peu l'impression que la fameuse phrase de Pompidou « Arrêtez d'emmerder les Français » a été oubliée. Le sujet est là, je crois qu'on ne cesse d'emmerder les Français dans tout. Sécurité routière, impôts, taxation, etc., etc.
Philippe Juvin avec Laurence Ferrari ce soir sur Europe 1. Après avoir battu des records, les prix des carburants commencent à se tasser. Le gazole s'est stabilisé la semaine dernière à 1,55€. Le sans-plomb 95 a perdu, lui, 1 centime, repassant à 1,64€. L'indemnité inflation de 100€ reste naturellement au programme. Les premiers bénéficiaires la toucheront en décembre. La justice va enquêter sur les causes du suicide de Dina. Cette jeune lycéenne de 14 ans a mis fin à ses jours le 5 octobre dernier dans le Haut-Rhin. D'après ses parents, elle était victime de harcèlement scolaire. Le parquet de Mulhouse va donc déterminer le lien éventuel entre ces faits et le suicide de l'adolescente. Au lendemain d'une marche blanche organisée hier pour Dina, Jean-Michel Blanquer était ce matin l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Le ministre assure que l'éducation nationale est mobilisée contre le harcèlement à l'école.
Nous agissons sur cette question. Il y a actuellement justement un plan qui se déclenche dans tous les établissements, qui s'appelle le plan phare, qui est fait pour que, à chaque fois qu'il y a un phénomène de harcèlement, oui. Il soit déclenché.
Mais qu'est-ce qui est fait contre les harceleurs, à part les exclure quelques jours ?
Ah ben, les harceleurs font l'objet de sanctions, bien entendu, et ces sanctions sont adaptées. Il faut, par définition, les scolariser quand même. On ne peut pas exclure ad vitam aeternam quelqu'un qui a été harceleur. C'est complexe, c'est l'adolescence, avec tout ce que ça signifie. Il y aura bien entendu un suivi, le suivi peut être disciplinaire, parfois il peut être un suivi pénal, hein, donc c'est ce que l'on verra à la lumière de l'enquête. Dans l'immédiat, soyons surtout dans une atmosphère de recueillement et puis d'investigation.
Jean-Michel Blanquer avec Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Ça faisait des mois que la police était à sa recherche. Fin de cavale pour Sofiane Ambly, l'un des plus gros trafiquants de drogue français. Il a été identifié et arrêté dans une clinique de Tanger au Maroc alors qu'il était venu se faire soigner après une agression. Sofiane Ambly est à l'origine du scandale de l'ex-office antidrogue dont il était l'indique Gladys Laffitte. Il aurait aussi organisé un trafic de grande ampleur.
Oui, il est connu pour avoir été l'indicateur de l'ex-chef de l'office anti-stupéfiants aux pratiques controversées, un personnage clé dans l'affaire qui a fait tomber le commissaire. Mais à 46 ans, Sofiane Ambly est surtout soupçonnée d'être impliquée dans un autre dossier. Il aurait touché 2 500 000 euros pour organiser l'importation de plus de 4 tonnes de cannabis en France, ce qu'il conteste. Il ne s'était pas présenté à la justice qui voulait le placer en détention provisoire, d'où cette nouvelle cavale. C'est pour lui une habitude. Cette fois, c'est donc au Maroc qu'il a été retrouvé dans une clinique où il a été admis vendredi dernier pour une blessure par sabre au visage. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un règlement de compte. Sofiane Ambly avait de faux papiers allemands, mais il a été confondu par ses empreintes digitales. Surnommé la chimère, il faisait l'objet de ce qu'on appelle une notice rouge d'Interpol. Pour l'instant, il n'est pas en état d'être arrêté à proprement parler puisque son pronostic vital est réservé. Mais dès que cela sera possible, une demande d'extradition sera formulée par la France. Un énième épisode de la saga Ambly, m'a confié un enquêteur.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. On dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, mais quand les touristes étrangers reviennent à Paris, on se dit aussi que cet automne semble nous éloigner un peu du Covid. Pour le mois de novembre, 40% des visiteurs étrangers de 2019 sont attendus et la moitié pour les fêtes de fin d'année. Pour Franck Delvaux, de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie en Île-de-France, l'UMI, on est quand même encore loin du retour à la normale.
Certes, les touristes reviennent, c'est nettement mieux que par rapport à 2020, mais on est quand même encore assez loin des chiffres de 2019. Parce qu'on a les Asiatiques qui ne sont pas là, les Chinois ne sont pas revenus, les Russes, avec ce qui se passe dans leur pays, ne sont pas là non plus. Les Américains reviennent, mais pas assez nombreux. Donc on a tout ce qu'on appelle les longs courriers qui ne sont pas présents. Et ça représente 25% des touristes à Paris. On peut espérer que le pont du 11 novembre soit favorable, celui du 1er novembre aussi. Et puis j'oserais dire, c'est le moment de venir visiter Paris. Il n'y a pas grand monde. On peut accéder facilement à la Tour Eiffel, au Louvre, au Château de Versailles. Il y a de la place dans les hôtels, on peut se faire une terrasse dans les restaurants, les bars. Donc c'est vraiment le moment de venir à Paris.
Franck Delvaux de l'UMI avec Romain Desarbres dans Europe Midi. C'est le moment de venir à Paris, disait Franck Delvaux, mais c'est aussi le moment de rester vigilant. Les derniers chiffres de Santé publique France le confirment. L'épidémie repart à la hausse depuis une semaine et de fait, nous sommes repassés au-dessus des 5000 cas de nouvelles contaminations par jour. Voici maintenant ce qui pourrait peut-être changer la donne. La pilule anti-Covid du laboratoire Merck va être examinée par l'Agence européenne du médicament en procédure accélérée. L'idée est de gagner du temps pour les autorisations de mise sur le marché. Si cette pilule prouve son efficacité, sa molécule, le molnupiravir, serait un excellent complément au vaccin, selon l'infectiologue Gilles Pialoux.
L'intérêt du molnupiravir, c'est d'être ce qu'on appelle un antiviral direct, c'est-à-dire qu'il inhibe la multiplication du virus à l'intérieur de l'organisme. Et quand on regarde les décès en comparant le groupe qui a pris le placebo et le groupe qui a pris la molécule active, on a une diminution de 50% de ce qui est le critère qui a été retenu dans cette étude, c'est-à-dire soit l'hospitalisation, soit le décès. Donc c'est des résultats très encourageants, c'est des résultats préliminaires qui n'ont pas encore été publiés, mais qui ont été suffisamment importants pour que l'Agence européenne décide d'accélérer le processus d'évaluation du dossier de cette molécule. L'idée n'est pas du tout d'imaginer que les traitements vont remplacer le vaccin. C'est en plus dans un secteur qui était passablement pauvre. Et là, on a quelque chose qui va avoir un impact sur ces formes en ville, ambulatoire, enfin qui concerne énormément de gens, et probablement beaucoup plus qu'on ne le croit, puisque par définition, ce n'est pas forcément des gens qui rentrent dans le système de soins, en tout cas dans le système hospitalier.
Le professeur Gilles Pialoux, infectiologue à l'hôpital Tenon à Paris avec Afsané Sabouy. Et à propos du vaccin, Moderna annonce à son tour, après Pfizer, des résultats positifs pour son vaccin anti-Covid sur les jeunes enfants. Les essais cliniques menés sur près de 5000 enfants âgés de 6 à 11 ans montrent une réponse immunitaire solide, selon le laboratoire pharmaceutique américain. On a maintenant des explications sur les circonstances qui ont conduit à cet accident mortel sur le tournage du western américain Rust au Nouveau-Mexique. Alec Baldwin est à l'origine d'un tir d'arme à feu accidentel qui a tué la directrice de la photographie du film. Le réalisateur Joel Souza a été blessé par ce même tir et son témoignage fait partie de ceux qui viennent éclairer ce drame, Alexis Guilleux.
Oui, au moment du drame, Joël Souza se tenait à côté de sa chef opératrice pour vérifier l'angle de la prise de vue. L'équipe répétait une scène dans une église dans laquelle Alec Baldwin, assis, dégainait son arme et la pointait vers la caméra. Le réalisateur dit avoir entendu un coup de fouet puis un gros pan. Alina Hutchins a alors commencé à tituber en se tenant la poitrine et Joël Souza a remarqué que lui saignait de l'épaule droite. Tout le matériel de cette scène avait été préparé avant une pause déjeuner et le réalisateur a confié aux enquêteurs ne pas être certain que le pistolet ait été de nouveau vérifié au retour de l'équipe. L'enquête se concentre donc sur deux personnes, l'armurière, responsable de la sécurité des armes à feu sur le plateau, et l'assistant réalisateur, l'homme qui a tendu le pistolet à Alec Baldwin en lui précisant qu'il n'était pas chargé. À propos de l'ambiance au sein de l'équipe, Joël Souza assure que tout le monde s'entendait bien, même si on sait que la production avait pris du retard et qu'une demi-douzaine de personnes avaient démissionné à cause des conditions de sécurité et de problèmes de paiement. Dans un autre témoignage, un caméraman présent sur le plateau assure qu'Alec Baldwin était très précautionneux lors du maniement des armes, lors de scènes enregistrées depuis le début du tournage.
Alexis Guilleux, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Allez, un peu de musique maintenant. Angèle vient de sortir le premier extrait de son nouvel album. Ça s'appelle « Bruxelles, je t'aime ». Vibrante déclaration à sa ville natale, comme Angèle l'explique au micro de Stéphanie Loire.
Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime.
Cette chanson, elle est née il y a quelques mois, quand je me suis retrouvée loin de Bruxelles, une fois de plus. Moi qui avais passé 3 ans en tournée dans le tourbus, là je me suis retrouvée confinée. Je rentre chez moi de nouveau et cette chanson m'est venue parce que j'avais beaucoup mes amis au téléphone qui me racontaient comment ils vivaient cette période-là de leur côté. Et puis j'avais déjà cette mélodie qui était déjà un peu présente et voilà. Et j'ai écrit, puis petit à petit elle s'est construite comme ça. J'avais envie de faire une déclaration d'amour. Je trouve que les chansons sur les villes, elles sont toujours touchantes parce que même quand c'est pas la nôtre, on comprend le principe quoi, de sentir parfois loin de chez soi ou d'avoir besoin de déclarer son amour à une ville. Mais donc aussi aux gens qui s'y trouvent quoi.
Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as pas manqué. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as pas fait. Bruxelles, je t'aime.
Bruxelles, je t'aime. Angèle avec Stéphanie Loire sur Europe 1. Rendez-vous donc le 10 décembre prochain pour écouter en intégralité son deuxième album. Le temps pour ce mardi. Demain matin, Marlène Duret, eh bien, on débutera généralement la journée sous la grisaille et parfois même sous la pluie. Hein.
Oui, alors grisaille, nuages bas, brouillard. Demain matin, c'est vraiment le genre de situation aléatoire, Alexandre, où la grisaille parfois peut vraiment résister par endroits au point quasiment de ne pas voir le soleil de la journée. Bon, la plupart du temps, on le verra quand même un petit peu, matinée nuageuse donc, avec parfois un risque d'averse. C'est vrai, dans les départements côtiers de la Manche, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis il y a cette perturbation aujourd'hui qui est arrivée, qui va s'éloigner demain, mais dans la matinée, il pourrait encore pleuvoir très faiblement du côté de l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Est de l'Auvergne et le Lyonnais. L'après-midi, donc, le temps sera sec et variable dans toutes ces régions. Puis il y aura quand même quelques privilégiés avec un temps très, très ensoleillé. À votre avis, sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, un grand classique.
Comme par hasard.
Oui, parce que Mistral et Tramontane vont bien dégager le ciel. Beaucoup de soleil également du côté des Alpes, des Pyrénées, autour du Golfe du Lion. Bon, dans l'après-midi, ça devrait bourgeonner un petit peu côté Pyrénées et au niveau de la Savoie et de la Haute-Savoie. Les températures de fin de nuit seront plutôt douces dans l'ensemble, comprises entre 5 et 10 degrés dans les terres et plutôt entre 10 et localement 13, 14 degrés en bord de mer. Et puis les maximales, l'après-midi, afficheront 13 à 18 degrés. Ça dépendra de l'ensoleillement, évidemment. 13 à Metz, par exemple. Nous aurons 15 à Lille et Strasbourg, 16 à Paris, 17 au Mans, à Lyon, 18 degrés attendus à Nantes, La Rochelle, à Agen, Montélimar. Localement, on peut atteindre les 20 degrés près des Pyrénées. Et puis, la douceur persistera près de la Grande Bleue avec 20 à 23 degrés.
Merci beaucoup. Merci Marlène Duret. On vous retrouve à minuit pour un dernier point météo sur Europe 1. Dans un instant, Top à Wall Street avec Claire Lemaître. À suivre l'invité éco à 22h20. Patrick Potazek, coordinateur CFE chez CGC, chez Safran, alors que le groupe français va augmenter les salaires de ses collaborateurs. A tout de suite.
Europe Nuit, informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
22h19 sur Europe 1, c'est Top à Wall Street avec Claire Lemaître. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
La semaine démarre bien à Wall Street avec de nouveaux records historiques pour le Dow Jones et le S&P 500.
Oui, nouveau record pour le S&P 500, record aussi pour le Dow Jones, grâce à une petite hausse de 0,19%, il est à 35 743 points. Pas de record pour le Nasdaq, mais il gagne tout de même 0,9%. La star du jour à New York, c'est Tesla. L'action flambe de plus de 12%. Le loueur Hertz a commandé 100 000 véhicules à Tesla pour électrifier sa flotte de voitures. Alors évidemment, c'est un très gros coup pour l'entreprise d'Elon Musk. L'action bat donc un record ce soir à 1 026 $ et sa valeur en bourse dépasse les 1 000 milliards de dollars. Tesla rejoint donc Apple, Amazon, Microsoft, Microsoft et Alphabet dans le club très fermé des 1000 milliards. L'autre forte hausse du jour, moins spectaculaire, c'est PayPal qui a démenti vouloir racheter Pinterest après des rumeurs la semaine dernière. Annonce saluée avec un titre qui monte de 2,7%. C'est beaucoup plus compliqué pour Pinterest. L'action du réseau social décroche de près de 13%.
1000 milliards pour Tesla, la Tesla Model 3 qui était le modèle le plus vendu en Europe le mois dernier devant la Renault Clio. Et la Dacia Sandero.
Ça marche bien pour Tesla.
La différence, c'est le chèque à l'achat, c'est 45 000 euros pour une Tesla Model 3, quand même. On va encore beaucoup parler des grandes valeurs de la tech, Claire, cette semaine à Wall Street.
Oui, la saison des publications trimestrielles se poursuit. Et aux États-Unis, ce sont des géants comme Facebook ce soir, Microsoft et Alphabet demain, avant Apple ou Amazon jeudi, qui vont rendre leurs copies. La prudence est d'autant plus grande que Snap a perdu un quart de sa valeur en bourse vendredi après ses comptes du troisième trimestre. L'action Snap a chuté de plus de 26%, alors elle est stable ce soir. Apple aussi est stable et Amazon perd 0,4%.
La semaine démarre sur une petite baisse pour le CAC 40.
Oui, prudence avant une semaine qui sera très animée là aussi à Paris, avec une vingtaine de publications de chiffres d'affaires au sein du CAC 40. L'indice perd 0,31% ce soir, 6712 points. Les plus lourds replis du jour sont pour l'aéronautique. La reprise des contaminations au coronavirus en Europe et en Chine pèse sur le secteur. Le constructeur Airbus perd 1,5%, moins 2,5% pour Safran qui fabrique des moteurs d'avion.
Et en revanche, les valeurs liées aux matières premières s'en sortent mieux.
Avec ArcelorMittal qui bondit de 4,6% avec la hausse des cours des métaux. Ça monte aussi pour Technip FMC qui profite de la progression du pétrole. L'action gagne plus de 3%. Enfin, Rexel s'adjuge plus de 5%. Kepler Chevreux a relevé sa recommandation sur le titre du distributeur de matériel électrique. Il conseille désormais de l'acheter. Les marchés européens ont clôturé dans le désordre. Londres gagne 0,2%. Plus 0,4 pour Francfort, Milan plus 0,9. Madrid gagne 0,1%, mais c'est du rouge donc à Paris. Le CAC 40 perd 0,3%, 6712 points.
Merci Claire Lemaître de Boursier.com. À l'heure de la reprise économique, les salaires augmentent chez Safran, groupe français spécialisé dans l'aéronautique, la défense et l'espace, des hausses de 2,7 à 3%. Pour en parler sur Europe 1, Patrick Potazek, coordinateur CFE-CGC chez Safran. Il était ce lundi l'invité de La France Bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Bonsoir Patrick Potazek.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le coordinateur CFE-CGC de l'entreprise Safran. La CGC, c'est le tout premier syndicat de Safran. Alors pourquoi nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir? C'est parce qu'il y a une bonne nouvelle du côté du groupe Safran. Vous venez de conclure vos négociations salariales et elles sont extrêmement porteuses pour les salariés puisqu'on annonce chez vous des hausses de salaire en fonction des filiales qui vont aller de 2,7% à 3%. Vous fabriquez notamment les moteurs d'avion. Vous aviez été très très durement touché au démarrage de la crise, au point que le groupe avait mis en place ce qu'on appelle un accord pour l'activité partielle de longue durée. J'imagine que vous êtes un syndicaliste heureux ?
Oui, je suis un syndicaliste heureux. Et je dirais que c'était vraiment une demande portée par l'ensemble, en fin de compte, des organisations syndicales, de mettre la priorité sur le pouvoir d'achat. C'est très important et puis on est vraiment content.
C'est le signe que c'est reparti aujourd'hui ?
C'est un signe que c'est reparti. De toute façon, tous les indicateurs montrent que le trafic repart. Mais c'est aussi un signe que notre activité aussi va repartir. C'est le but, en fin de compte, de cet accord-là que l'on a signé. C'était de dire, bon, on tourne la page. Maintenant, la crise, elle est derrière nous. On a les indicateurs qui montrent que ça repart.
Malgré tout, une progression des salaires de 2,7 à 3%, ça paraît sur le papier, quand on regarde ça de l'extérieur, énorme quand même.
C'est énorme, mais de toute façon, l'ensemble des organisations syndicales avaient signé l'accord de transformation d'activité suivi de l'activité partielle l'année dernière. Il y avait eu un certain nombre de sacrifices qui avaient été demandés aux salariés, notamment pratiquement pas de NAO sur l'année 2021. Donc cette augmentation qui est prévue l'année prochaine prend en compte aussi le fait qu'en 2021, il n'y a rien eu du tout en termes d'augmentation. Donc voilà, effectivement, ça paraît peut-être important, mais il faut remettre ça dans la perspective. Et puis en plus, la perspective aujourd'hui avec l'augmentation de l'énergie, puis tout ce qu'on peut entendre dans la presse, je pense que c'est un signal très fort pour aider à la fois les salariés dans la sortie de crise et puis aider les salariés à se projeter à l'avenir et tourner définitivement la page de cette période qui est un peu douloureuse.
L'autre pan très très important de cet accord, c'est un engagement sur
l'emploi. C'est-à-dire le groupe Safran avait fait partie de ces groupes qui avaient donc signé un accord d'activité partielle de longue durée, qui s'était engagé à ne pas ou à limiter au maximum les licenciements pendant cette période difficile. Là, au contraire, le groupe dit « Allez, on repart de l'avant et on va réembaucher 2500 personnes, ce qui va permettre de compenser les départs qui n'avaient pas été remplacés de ces derniers mois. » Là aussi, vous êtes satisfait ?
Oui, on est tout à fait satisfait parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au niveau donc de l'accord d'activité, transformation d'activité qui avait été signé l'an dernier, dedans il y avait des mesures notamment d'aide pour favoriser le départ des seniors, des gens qui étaient en capacité de partir et avec des mesures qui leur permettraient d'avancer leur date de départ. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de départs et que le but de réembaucher, ça permet de dire on maintient l'emploi en France. Pour nous, c'est très, très important. Et puis surtout, il était urgent d'investir sur l'innovation, d'investir pour l'avion de demain, les moteurs de demain. Et je dirais ce signal fort va tout à fait dans cette lignée-là de remettre les moyens et de faire en sorte que les efforts que l'on fait soient accompagnés avec les embauches et de telle manière qu'on soit présent au rendez-vous, puisqu'il y a un enjeu quand même important pour notre métier avec l'avion décarboné.
Beaucoup d'acteurs économiques disent qu'avec le Covid, les négociations entre syndicats et direction se sont facilitées. C'est-à-dire que vous seriez rapprochés pendant cette période. Vous avez sentiment, ça a été plus simple que d'habitude de trouver un accord avec votre direction ?
C'est vrai que ça a un peu changé le dialogue, notamment dès que la crise est arrivée. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le groupe Safran, en accord, bien entendu, avec les partenaires sociaux, a essayé de trouver une autre solution. Basé sur des efforts répartis et ça a marché. Et effectivement, la crise a été très violente dans tout le milieu aéronautique. Et effectivement, on a pu, ensemble, on peut appeler ça de la co-construction, c'est un peu le terme aujourd'hui qui est un peu employé, mais vraiment, il y a eu des échanges de part et d'autre.
Et cet accord-là que vous venez de trouver, il a été facile à trouver ? C'est-à-dire qu'il y a eu un point de rapprochement assez rapide avec la direction ? Vous aviez l'impression de vous comprendre que tout le monde se disait faut donner un signe parce que l'entreprise repart, faut donner un signe parce qu'il y a de l'inflation. Ça a été simple de trouver cet accord ?
Il y avait une volonté de trouver un accord pour accompagner la sortie de crise par rapport au contexte. Après, je ne vous cache pas que au début des discussions, il y avait un certain nombre d'écarts entre les propositions de la direction et les propositions des organisations syndicales. Bon, après, c'est le but de la négociation aussi, c'est de trouver un compromis. Et je pense que c'est ce qu'on est arrivé à faire. Et c'est vrai que ce qui s'est passé avec le Covid, ça a permis au niveau des partenaires sociaux, on a tous pris un peu de recul peut-être sur le sujet et peut-être de pouvoir aussi aborder des sujets qu'on n'abordait pas avant, en grande franchise. Donc voilà, donc après, c'est un compromis, un accord, c'est toujours un compromis. Mais effectivement, ça a été peut-être un peu plus dur, un peu plus délicat à arriver à ce fameux compromis, mais l'essentiel, c'est qu'on y est arrivé.
Eh bien, merci beaucoup, Patrick Potassac. Je rappelle que vous êtes le coordinateur CFE-CGC, premier syndicat du groupe aéronautique Safran. Safran qui a donc signé un accord ambitieux pour la hausse de salaire à venir, hein, des hausses qui vont aller de 2,7 à 3% pour le groupe. Nous, on se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci Emmanuel Dutheil, on vous retrouve également de 13h à 14h pour La France bouge sur Europe 1. Votre invité avec Elisabeth Assayac sera la nouvelle patronne de la marque Aigle.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Un coup d'œil sur les unes de la presse demain matin, mardi. Déjà en campagne, Emmanuel Macron s'expose sur tous les fronts. C'est la une du Figaro. Le chef de l'État multiplie les déplacements en France. Il accorde des aides financières en tout genre, écrit le quotidien. Il se lance dans une campagne qui ne dit pas encore son nom. Il l'a promis, Emmanuel Macron. Il s'engage à gouverner, ce sont ses mots, jusqu'au dernier quart d'heure de son mandat. Et pourtant, il multiplie depuis la rentrée les signaux d'une pré-campagne qui ne dit pas son nom. C'est vrai, on vous en parlait dans le journal sur Europe 1 de ce déplacement présidentiel aujourd'hui encore dans la Loire. Un déplacement, Jacques Seret vous l'a dit, qui avait tous les atours d'un déplacement de campagne. Alors que le nucléaire s'impose comme l'un des thèmes majeurs de cette campagne présidentielle, et bien voici le rapport qui relance le nucléaire, titre Les Échos. Un rapport de RTE qui estime inévitable une relance du nucléaire combinée à un recours massif aux énergies renouvelables. Voilà donc un rapport qui tombe à pic pour Emmanuel Macron, titre L'Opinion. Rapport qui étudie plusieurs scénarios de production d'électricité d'ici à 2050 et sur lequel Emmanuel Macron devrait s'appuyer appuyés pour une éventuelle annonce de construction de nouveaux réacteurs nucléaires. C'est un pari, titre Lacroix, le pari français, celui d'associer justement le nucléaire et les énergies renouvelables dans la production d'électricité en France dans les prochaines décennies pour aboutir finalement à une électricité bas carbone. Il est 22h30 sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vient de nous rejoindre Olivier Delacroix pour la libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Alexandre.
Prêt pour attaquer cette nouvelle semaine avec joie et bonne humeur?
Complètement prêt. Le week-end a-t-il été bon?
Il a été excellent.
Bon, vous avez l'air en tout cas. Nous sommes donc tous les deux en forme pour attaquer cette
Exactement.
Semaine, mon cher Alexandre. On se retrouve tout à l'heure à partir de 23h pour votre flash.
À tout à l'heure, Olivier.